Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Salut à tous, le meilleur du Super Moscato Show, c'est parti, comme tous les après-midi, de 15h à 18h, avec Adrien Aygouin.
Salut Pierrot, bonjour à toutes et à tous, un joli
un
programme.
Assommé par la chaleur.
On est assommé par la chaleur, mais on va être assommé par la rigolade aujourd'hui, Pierrot, parce qu'on a de très bons moments à vous faire revivre.
Alors, au programme aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de Kvara.
Voilà.
Kvaratskhelia, qui pour nous peut-être fait partie des plus grands, tout simplement. Ensuite, au programme également, Mbappé et Dupont sont-ils intouchables en bleu? Alors c'est sûr qu'avec la Coupe du Monde de foot, on a eu des réponses, évidemment. Et puis Arthur Fils. Alors Arthur Fils, c'est sympa parce que au mois d'avril, on s'est demandé est-ce qu'il a l'étoffe pour gagner un grand chelem. Malheureusement, il a raté Roland.
Bon, c'est pas sympa. Il s'est blessé l'année.
Oui, c'était possible.
L'année où tout le monde s'est blessé. Arthur Fils, un grand chelem, est-ce un rêve inaccessible?
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le journal moyen?
Journaux moyens, les premières éditions à 15h45. Souviens-toi, on avait diffusé la vraie voix de Dioul. Et bon,
c'était impressionnant.
C'est pas Florent Pagny, quoi. Bon, c'est comme ça. Et puis 16h45, deuxième édition du journal moyen, le micro de Pascal Olmeta était resté ouvert au moment où il ne le ferait pas. Ça, c'est dangereux. Et Manu Petit revisite l'expression faire cavalier seul.
Très bien.
On adore Manu Petit.
Alors il y aura du Manu Petit et il y aura peut-être, parce qu'on peut pas le faire non plus tous les jours,
du Didier
Deschamps.
Peut-être.
Tous les jours, ça serait un peu trop,
un peu lourd.
Ça s'appelle de l'acharnement.
Un peu lourd.
Donc on verra, peut-être dans la semaine, il y aura peut-être un jour où il y aura pas de Didier Deschamps, ça va peut-être tomber aujourd'hui.
C'est Suzanne qui décide ?
Oui, c'est Suzanne qui décide et donc faut attendre. Je vous le dirai à 17h, voilà, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Allez, on démarre avec Kvara, c'est parti.
RMC, le Super Moscato Show.
Il existe des joueurs qui suivent un chemin tracé, une ascension linéaire vers les sommets.
La frappe, le but Kvaratskhelia.
Non, mais c'est sûr, à côté, c'est Vinicius et Mohamed Salah, c'est des juniors.
Et puis, il y a Kvisha Kvaratskhelia.
Faut quand même m'expliquer comment un joueur qui, depuis octobre, et pas un pied devant l'autre, qui ne met pas un but, et on me dit non mais là attendez, mais c'est le recrue du siècle ton PSG, mais c'est fantastique, mais vous allez voir.
Attention, le ballon perdu, va très bien dans la surface de réparation, et le deuxième but parisien.
Il y a encore 4 ans, Kvisha était un nom que seuls les scouts les plus pointus murmuraient dans les couloirs froids des centres de formation d'Europe de l'Est.
Et quand il a eu des bases, je te rappelle qu'il a quand même resté 6 mois sans marquer, sur un attaquant, c'est énorme.
On l'appelle Kvaradona, le magicien, le prodige de l'Est.
C'est un joueur qui va te mettre entre 10 et 15 buts, qui en Ligue des Champions a des stats qui sont très mauvaises. Mais ça va pas aider le club dans ce qu'ils ont besoin.
Breaking news. Est-ce que tu l'as gardé, cette boule de cristal là, parce que
les tombes,
je l'ai pas gardé, mais je te l'ai dessus.
Mais attends, quand il est arrivé, me dis pas qu'il était pas mauvais. Après, il est devenu très bon, mais ça, c'est quand même difficile d'anticiper.
Oui, putain, c'est catégorique quand même.
Tu t'es lâché, moi.
Tu n'es pas voilà. Demi-tête. T'as pas dit, on demande à moi.
Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la Dream Team? Bah voilà.
Parce que voilà,
Le gilet pare-balles que tu avais juste avant l'émission, tu le changeras. Parce que là, il est privé.
Donc, on y va. Kvara a illuminé la demi-finale de Ligue des Champions jusqu'à même éclipser les étoiles du Bayern, Diaz et Olise au match retour. Donc, quand on parle des meilleurs joueurs du monde, son nom ne vient pas en premier, d'ailleurs. Ce qui peut faire écho un peu à ce qu'on vient d'entendre de Marion, même si c'était juste pour se moquer gratuitement. Donc finalement, a-t-il quelque chose à envier au plus grand actuel? Alors on va citer qui? Yamal, Kane, Haaland, Mbappé, Vinicius, Dembélé, et puis au plus grand tout court.
Attends, c'est pas tous les mêmes postes là quand même.
Non, voilà,
c'est pas oublié, tu mets les mélanges avec les attaquants, tu mets les
mélanges. À son poste, on peut dire qu'il fait partie des peut-être les meilleurs du monde.
La race des grands,
peu importe
le poste.
On va faire un point déjà sur son image dans le milieu du foot actuellement avec Fabrice Hawkins. Salut Fabrice. Parce que Fabrice, tu sais, comme on dit, il grenouille dans ces milieux-là. Il connaît tout le monde, il sait tout.
Donc,
dis-nous simplement comment il est considéré Kvara,
termite,
aujourd'hui dans le monde du foot.
Bah, déjà, c'est le joueur le plus décisif du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions. 10 buts et 6 passes décisives. Et sur les 7 derniers matchs de sa compétition préférée, il a à chaque fois ou marqué ou été à l'origine de la dernière passe avant un but. C'est une première dans toute l'histoire de la Ligue des Champions. Même Benzema, quand il est ballon d'or, il n'a pas réalisé pareille performance. Les statistiques ne disent pas tout de son engagement sur le terrain. Le géorgien défend son couloir gauche, on l'a vu, comme si sa vie en dépendait. Ça soulage les défenseurs et les milieux et ça plaît énormément à son entraîneur. Il a été chouchouté justement dès le départ par Luis Enrique, qui croyait énormément en lui. Et pour beaucoup maintenant, il est considéré ou comme le meilleur joueur du monde, en tout cas comme l'un des meilleurs joueurs du monde.
Voilà, Vincent, est-ce que c'est ça la question en fait? Ou le meilleur joueur du monde, ou l'un des meilleurs joueurs du monde? Et oui, c'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas du tout la même chose.
Il sera à son poste, c'est le meilleur du monde.
Alors à son poste, on a un Luis Diaz, par exemple.
Non, mais il a sombré. Lui, il a sur les deux matchs, deux confrontations de très haut niveau, ce qui se fait de mieux dans le foot mondial.
Oui, là, la finale en deux actes.
Ils sont gentils, là, le Mexique, tous les championnats de Blairon, bon, ils ne sont pas invités. Ce qui se fait de mieux, c'est la Champions League. Donc, les
à son
deux.
Poste, on a Rafinha,
les deux grosses équipes de la Champions League, c'est le PSG, c'est le Bayern. Donc, la plus grosse confrontation qui a une finale avant l'heure. Qui sort deux matchs d'affilée de très très haut niveau, qui est dangereux, qui fait gagner son équipe avec ce centre, qui a failli marquer encore une paire de fois, mais qui est surveillé, qui a des cannes, qui revient défensivement, qui est un joueur le plus complet. C'est-à-dire, c'est un ratagan, c'est un ratier de cette race, des ratiers qui défend, qui a la lève. Tu vois, tu le sens, il y a la langue qui pend, à la 80e minute, on refoule l'accélération. Je me regarde, moi, de le voir. Techniquement, pim, petit crochet intérieur. Et il revient sur son pied droit. Fluf, il te fout de enrouler le ballon qui tourne comme ça, tu vois, le coup du guidon. Hop, il est là avec le guidon, il tape et puis hop, il les amène comme ça, le coup de la scoliose. Le ballon, il revient dans le truc. Le meilleur du monde à ce poste, je peux te le dire.
Et le volume,
là, sur le momentum, le volume de jeu, le et meilleur club du monde, le PSG, avec le Bayern, les deux meilleurs dans la plus grande compétition du monde. Parce que c'est là, parce que si tu me dis, il est bon contre Nantes.
Il la manque.
Attention. Mais tu vois, donc c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur du monde actuellement. À son poste.
Donc, tu vois, c'est typique de ce que génère ce mec. On n'ose pas dire plus que c'est le meilleur à son poste. Parce que, non, mais je ne le reproche pas.
Je te dis ça par humilité parce que je ne connais pas assez les autres postes.
Non, mais et
je
oublie ton humilité. Débarrasse-toi de ton humilité.
Ah, mais moi, pour moi, attaquant, c'est le plus efficace. Doué, il est très bon. Le petit Olivier, il est très bon.
Par rapport à Vinicius, par rapport à Mbappé, par rapport à Haaland.
Actuellement, il est meilleur que Mbappé. Il n'y a pas photo. Actuellement,
meilleur que Vinicius.
Meilleur que Vinicius. Il n'y a pas photo.
Le débat, il est peut-être entre lui et Ousmane Dembélé, en fait.
Meilleur qu'Olivier.
Il y a mal. Il y a Yamal aussi.
Meilleur que Dembélé ou pas?
Meilleur que Dembélé. Oui, meilleur que Dembélé. Parce que
Dembélé,
vois,
en ce moment,
Dembélé, sur le moment, il a fait sortir Dembélé. Parce qu'il fait quand même. C'est pas le même match. Il a un peu
de le volume. Le côté défensif. Son côté ratier, comme tu dis.
Il file une dent d'un verre d'eau, il traverse le désert de Mauritanie.
Bah oui, non, mais c'est aussi ça qui fait la beauté de son jeu aujourd'hui. C'est qu'il est capable d'être très efficace à son poste. Mais aussi, il a un repli défensif. Il donne sa vie pour le club. Alors effectivement, lui, il n'a pas la nationalité ou le pays pour aller chercher un grand titre. Et derrière, ça s'arrête là. Sa vie, ses titres, son palmarès, il va le faire avec son club. Ouais, ça, il faut le prendre en compte. Il y a d'autres grands joueurs mais en tout cas, moi, je vais plus loin que toi. C'est même pas à son poste. C'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas qui est meilleur que lui sur un terrain de football. Ouais. Personne en ce moment. Personne. Et on met une nationalité différente à Kvara, il est l'ultra favori pour le Ballon d'Or.
Pour être Ballon d'Or.
Oui, s'il est brésilien.
Donc, quelque part, c'est lui le meilleur. Il y a d'autres joueurs, évidemment, qui sont dans un rôle plus sombre, plus moins voyant. Ouais. On parle de Vitinha Neves, c'est très très haut niveau aussi, mais c'est pas les mêmes.
Le gros problème du Ballon d'Or, c'est qu'après il y aura la Coupe du Monde, ça sera
évidemment.
Et puis après, t'as talent individuel de Yamal quand même.
Pour Yamal, pour Dembélé, pour Rafinha, Harry Kane. Dans un style différent, Pierrot. Harry Kane, il te met encore un but l'autre fois, mercredi dans la dernière minute.
Il est monstrueux.
Il pèse pas sur le jeu comme peu
quand même. Il pèse différemment.
Si je vois que lui différemment ou pas différemment, il pèse sur le jeu. Tu sens que lui, le Bayern, tu l'enlèves, c'est plus du tout la même. Alors qu'au PSG, t'enlèves Dembélé.
C'est moins spectaculaire.
Il manque moins quelque chose. Il manque moins quelque chose. Regarde Hakimi. T'as l'impression, Hakimi, on en a parlé hier. Tu l'enlèves, tu te dis par qui on va le remplacer. On le remplace.
Marion, qu'a-t-il envie au plus grand?
Non, mais rien du tout. Et tout ce qui a été dit, je suis complètement d'accord avec mes collègues. J'aimerais simplement rajouter qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même une personne qui l'a énormément aidé à progresser.
c'est Luis Enrique, parce que très honnêtement, quand il est transféré en janvier 2025
et qui fait lui la lui première confiance
et qui fait la première moitié de saison à Napoli, on les a vus ces matchs au Napoli, je pense pas qu'il y ait une personne qui pouvait envisager le niveau qu'il a, voilà, qu'il a atteint
saison,
aujourd'hui.
La,
donc
la première saison où il est monstrueux à Naples, hein, quand même, ouais, avant ses difficultés.
Oui, mais je trouve exactement, les difficultés qu'il a eues, elles ont été quand même réelles. C'est un joueur qui aujourd'hui a 25 ans et quand il est transféré, il en a 23. Je pense que d'intégrer le collectif qu'il a intégré, on sait très bien aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se sont lancées du PSG l'année dernière, en particulier lorsqu'ils sont menés 2-0 contre City et puis derrière tous goupillés. Mais il a effectivement atteint un niveau de jeu actuel qui le met parmi absolument les meilleurs du monde sans aucune discussion possible. Après, malheureusement, il n'est pas très bankable. Il vient effectivement d'un pays, la Géorgie, qui n'est pas une très grande nation du foot, et donc il y a un manque d'exposition médiatique qui va certainement lui coûter pour éventuellement aller chercher un ballon d'or, d'autant plus que on sait très bien que c'est pas la Géorgie qui va gagner la, qui va être championne du monde, donc des pays où tu as un joueur comme Yamal ou comme même comme Michael Olise en France, hein, qui vont être capables d'avoir la capacité d'être champion du monde, hein, et de rajouter effectivement des qualités techniques individuelles exceptionnelles et des gros résultats en club. Certainement, malheureusement pour lui, le ballon d'or va lui passer sous le nez. En revanche,
Olise
en
Marion, il
ne
gagnera
qualité,
pas la Champions League. Donc déjà, il a un coup d'œil.
Non, bien sûr. Voilà, mais tu peux être champion du monde.
La Coupe du Monde va vraiment marquer les esprits. Donc tout
exactement.
Est possible pour ces mecs-là.
Surtout sur une année de Coupe du Monde. Yes. Mais en revanche, qu'il ait un impact absolument colossal sur le PSG, les stats ont été données. Il est à 10 passes, 6 passes D, et c'est le premier joueur de l'histoire être autant décisif et être décisif sur tous les matchs. Le caviar qu'il donne à Dembélé sur le match retour du Bayern, il est absolument monstrueux. Donc c'est un joueur exceptionnel. Malheureusement, effectivement, avec une petite nation comme la Géorgie qui manque de poids, voilà, certainement, alors qu'il a le potentiel réel d'être ballon d'or, il ne l'aura certainement pas. Mais ça reste quelqu'un, un joueur qui a eu des progrès monstrueux et qui est monstrueux sur le terrain.
Ça peut dépendre aussi de ces deux derniers matchs-là, enfin de cette finale et de ce qui va se passer. La Coupe du Monde, tu peux aussi avoir un titre avec un pays où il n'y a personne qui ressort de cette équipe-là. C'est rare, mais ça peut arriver.
Au vu des équipes actuelles ensemble,
on a quelques joueurs français, on a quelques joueurs argentins, un joueur allemand, je ne vois pas qui va d'un coup se révéler. Harry Kane, évidemment, s'il fait une énorme Coupe du Monde avec l'Angleterre.
Oui, non, mais tu vois, Ousmane,
pour valider un ballon d'or, la liste est courte.
Oui, mais tu vois, si t'as Ousmane qui remporte la Champions League à nouveau et qui est champion du monde
un
avec
Français,
la France.
Un Français, Marion,
Et après, t'as quand même Yamine Yamal sur les qualités individuelles.
Mbappé pour France, il a bien pris l'Espagne et champion du monde qui met 10 buts.
Bien sûr, il
pourra tout à fait. Alors, Gvara, qu'a-t-il à envier au plus grand? Nous avons Johan au 32-16. Salut, Johan.
Salut, Johan.
Comment allez-vous?
Ça bricole, tranquille.
Et toi, tu nous appelles d'où? Moi, Kvaratskhelia, il est capable de le gagner, le ballon d'or. Il suffit pas de gagner la Coupe du Monde, hein, il suffit de gagner avec des champions, être un joueur magnifique comme il est. À chaque fois qu'il est sur le terrain avec le Paris Saint-Germain, il est capable de faire gagner un match.
Alors, à chaque fois, dans les grands matchs.
Dans les grands matchs, oui, mais c'est ce qui fait les grands.
Ce début de saison, dans les matchs de Ligue 1,
c'était un peu général, c'était la retombée.
Mais après, la dame qui est à côté de vous, qui est.
Germaine, c'est une championne.
Marion Bardelouis, voilà.
Elle a dit tout simplement que Kvaratskhelia, il a rien à devoir au plus grand, parce que je pense que franchement, il est exceptionnel. Moi, je le trouve un des meilleurs joueurs actuellement. Il fait peur à tout le monde. Il est décisif quand il peut être. Non, franchement, moi, j'ai rien à lui reprocher. Hein.
Non, mais
personne ne lui reproche rien.
Personne ne lui reproche rien.
Même vous, madame.
Vu qu'on a encore une minute, on peut se poser la question. En fait, quand tu élis le ballon d'or, jamais tu te dis que tu élis juste le meilleur joueur du monde, est-ce que tu peux te dire que malgré tout, tu penses que c'est lui le meilleur sur la saison et que tu votes pour lui?
Non, parce que le ballon d'or, pour moi, le meilleur, il faut des résultats. Il faut les meilleurs résultats.
Il faut le meilleur.
Parce que autrement, tu dis, le mec, il a fait 150 jongles, c'est le meilleur joueur technicien de football. Non, il faut des résultats au bout. Autrement, c'est pas possible.
Ouais, mais la problématique, Vincent, avec lui, c'est qu'on peut pas lui reprocher de pas être né dans le bon pays.
Non, mais regarde Modric. Il est où, Modric, à ballon d'or? Mais oui, la Croatie fait finale de champion du monde. Si la Croatie met en poule, il n'est jamais ballon d'or, Modric. Oui.
Mais l'année où il y a une Coupe du Monde, hélas,
après, si tu es obligé de prendre en compte.
Il est jeune, t'es pas à l'abri. La Géorgie, ils sont progressivement. Moi, j'ai toujours en souvenir la Bulgarie de Stoïkov.
Surtout, ils peuvent faire un bel euro.
Stoïkov, au début, on dit qu'il n'a aucune chance d'avoir un ballon d'or. Finalement, qu'est-ce qui se passe? La Bulgarie va en demi-finale du mondial. Il a terminé ballon d'or.
Mais la Géorgie, ils ont une équipe.
Ils sont en grand progrès.
Ils étaient qualifiés au dernier euro.
Ils ont fait jamais.
Sous Willy Sagnol, ils ont fait un grand pas en avant avec l'émergence de certains joueurs et ils peuvent devenir une nation en Europe, en tout cas, qui gêne. Quoi.
Comment rugby progresse, Vincent, les Géorgiens?
Ah, mais le Géorgien, ça fait longtemps qu'en rugby.
Non, mais ça va vite.
Ils sont pas mal. Quoi,
Qui est le sélectionneur de la Géorgie en rugby?
Ah, je sais plus.
Merci à Johan. Mais c'est pas lui.
Non, bon, faut pas que ça devienne habituel. On devrait poser des questions dont vous connaissez pas les réponses non plus.
C'est un français.
Oui, non, mais vas-y, tape. Oui,
non, il y a Pierrot, il y avait un anglais.
C'est Pierre-Henri Brocante.
Il y a un anglais qui s'est fait. Pierre est en train de faire durer le plaisir pour essayer de trouver là.
C'est Marion qui a raison, non? C'est Brocante.
Je crois qu'il n'y a pas de sélectionneur. Vincent.
Ouais, c'est Brocante.
C'est Brocante?
Ben si, c'est Pierre-Henri Brocante qui sera sélectionneur jusqu'en 2027.
Mais il n'est pas encore parce qu'il est encore à Brive là, Brocante.
Ah oui, il est à Brive.
Non, devient le sélectionneur de la Géorgie jusqu'en 2027.
On est bien. Dans un instant.
Merci. Oui, la dame.
Merci, madame, pour l'information. Merci. C'était ton ami Coquerel qui était sélectionné en Géorgie, qui s'est fait virer parce que.
Il est immense, Gvara.
Il sera peut-être jamais
Ballon d'Or.
Dommage
que la Géorgie n'ait pas fait la Coupe du Monde.
Il sera peut-être jamais Ballon d'Or. Il le sera peut-être Ballon d'Or. Il n'aura pas de prochain monde ou pas d'Euro. C'est possible.
Ervilaine Gapet revient en France. Il va tout nous expliquer avec le rêve des JO 2028. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Le meilleur du Super Moscato Show sur RMC. Dans une demi-heure, Adrien débat sur Arthur Fils.
Un grand chelem, est-ce un rêve inaccessible? C'était avant sa blessure, avant Roland Garros. À ce moment-là, il cartonnait Pierrot. Il jouait.
C'est avant qu'il aille à Rome.
Tous nos consultants, Sarah, Marion, Julien, nous disaient il joue top 4.
Voilà.
Il joue top 4 dans sa demi-finale potentielle à chaque grand chelem.
C'est-à-dire qu'il aurait gagné Roland Garros.
Mais il va revenir. C'est pas grave, ça va le faire.
Et puis, Ervin Gapet dans un instant. Et juste après, restez bien avec nous parce qu'on fait la comparaison Loeb-Ogier. Alors c'est un débat qu'on a fait mille fois, mais là Ogier a rattrapé Loeb, au moins sur quelques statistiques. Loeb reste-t-il au-dessus d'Ogier? C'est dans quelques minutes après l'interview d'Ervin Gapet.
RMC,
le cri du cœur du super Moscato Show.
Ervin Gapet, double champion olympique de volley, qui revient dans le championnat de France à Tours. Là où il a démarré en 2008. Vincent, salut Ervin.
Salut tout le monde.
Comment il va?
Salut.
Ça va. Salut. Mais quand tu vas jouer à Tours, tu vas y vivre aussi?
Eh ouais.
Non.
C'est la
loose. Non, c'est très bien Tours.
Bah, oui, mais tu te rendras dans 2 ans, tu aimes la fête.
C'est pas très loin de Paris.
C'est non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je déconne, c'est bien Tours, non, c'est super.
Pourquoi ce retour dans le championnat de France, Ervin?
Bon, ça fait un petit moment là que j'avais envie de rentrer en France. Me rapprocher de la famille aussi hein. Parce que la famille quand t'es sportif de haut niveau elle subit beaucoup là, les enfants ils commencent à grandir et tout, il fallait se rapprocher et puis comme il y a l'envie d'aller à LA, fallait que j'aille quand même dans une grosse écurie, dans une équipe qui est compétitive, qui va jouer les titres et qui va faire la Ligue des Champions, donc Tours c'était le meilleur choix.
Alors justement, le président de Tours, François Bruno, a un projet ambitieux, notamment autour de toi. Le budget a augmenté de 30% pour la saison prochaine.
La bête est gourmande.
Tu parles de Ligue des Champions. Quand on regarde ton palmarès, tu as gagné 7 titres avec les Bleus. Tu es champion dans 2 pays différents, des coupes nationales dans tous les pays où tu as joué, mais pas la Ligue des Champions. Ouais. Est-ce que c'est possible avec Tours?
Je sais pas si c'est possible tout de suite. Il y a encore une différence économique qui est trop énorme.
C'est quoi la différence justement par rapport aux meilleures écuries?
Bah là, tu vois, je crois que Tours c'était 2,4 millions cette année le budget.
Ça va passer à 3 du coup.
Il y a les grosses écuries, il y a 7-8 millions, tu vois. Donc
ah ouais, c'est
ils sont,
8 millions.
Ils sont très très armés, ils sont armés pour gagner la Ligue des Champions. Moi, je trouve que le président il a fait un recrutement intéressant et qu'on va pouvoir aller embêter même des gros. On a vraiment une équipe super homogène avec des jeunes qui ont intégré l'équipe de France déjà l'année dernière. Après, de dire qu'on va gagner la Ligue des Champions l'année prochaine, ce serait mentir, mais je pense qu'on peut faire on peut vraiment exister sur la scène européenne.
T'as traversé le monde grâce au volley. T'as même fait une pige en Iran. T'as joué en Turquie, en Italie, en Russie. C'est quoi ta plus belle expérience finalement?
Si tu veux revenir en Iran en ce moment, tu nous disais tout à l'heure. T'aimerais bien revenir là-bas. Ouais.
Ça a été un peu craqué.
Tu t'es laissé pousser la barbe d'ailleurs.
C'est pour ça qu'entre Tours et l'Iran, il y avait quand même.
Ouais, c'est mieux. Le choix était facile.
Non, mais honnêtement, ça fait un peu rêver sur le papier la Turquie, la Russie, l'Italie.
C'est l'Italie. J'ai fait 9 ans en Italie. Je pense que c'était là où j'étais vraiment le mieux. J'étais vraiment à la maison avec une équipe qui était devenue une famille. Donc non, l'Italie c'était top et en plus tu bouffes bien.
La qualité de vie.
Il y a du bon vin et tout.
La qualité de vie, génial.
Ouais. Ah, c'était top.
T'as jamais été tenté par une expérience au Japon comme Anton Brizard?
L'Asie ça m'a jamais trop attiré.
Les pâtes sont moins bonnes. Les pays asiatiques c'est bien parce que le filet est plus bas, non?
Erwin Gapet dans le Super Moscato Show. Alors t'expliques aussi que bon, tu te rapproches de ta famille et que c'est aussi sympa pour un voleur français de jouer en France. Ce que font beaucoup les Italiens parce que les clubs sont plus puissants économiquement. Est-ce que ça c'est un regret dans ta carrière? Est-ce que tu aurais aimé plus jouer en France?
Bah bien sûr, toute notre génération là, on était tous à peu près en Italie en même temps et on enviait les Italiens qui jouaient dans leur pays, dans leur ville et là où ils sont nés, tu vois. C'est quelque chose qu'on a envié. Après, ça nous a permis de découvrir d'autres trucs, d'autres choses. Mais c'est vrai que quand on en parlait un peu off, quand tu te rapproches de la trentaine, tout le monde a envie un peu de rentrer à la maison.
Mais le paradoxe, c'est que ça vous a rendu peut-être plus fort, puisque l'équipe de France de ta génération, on peut le dire, même si la concurrence est très élevée, a été la meilleure équipe du monde. Il y a 2 titres olympiques consécutifs, il y a un titre européen, la Ligue des Nations. C'est le fait d'avoir joué à l'étranger aussi qui a permis ça?
C'est sûr, c'est le fait qu'on parte à peu près tous en même temps, au même moment, dans les gros clubs européens, qui a fait qu'en équipe de France, le niveau il a augmenté. Ouais.
Et puis pour les sportifs, ce qui est attrayant en France, c'est qu'il y a un abattement de 50% sur les impôts. Ah non, merde, excusez-moi.
Quand tu reviens, souvent, tu as un avantage fiscal. Quand tu reviens de l'étranger.
Ça s'appelle
l'impatriation.
L'impatriation.
Denis, avec Erwin Gapet.
Écoute, moi, non, je m'en vais, je reviens. Mais ça marche pas.
Sans dénigrer le championnat de France, est-ce que c'est pas un peu de la facilité de revenir chez toi? Même pas à nous expliquer tout le pourquoi du comment, mais est-ce que c'est pas un peu la facilité?
La facilité, finalement, je vais avoir plus de...
Par rapport au confort, je te parle, moi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ta motivation, elle sera à la hauteur des attentes de tous les gens qui vont venir te voir?
Tu vois, j'ai fait... après les Jeux, je suis parti jouer à Poitiers, donc la ville d'où je viens, pendant 3 mois. Quand je pars, on n'est pas premier du championnat. Donc du coup, tu vois, moi je me mets un peu, ça me met un peu la pression aussi. Je trouve que je me mets plus en difficulté qu'autre chose parce que je rentre en France et si
on compte sur toi, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça dépend un peu, pas que de moi, mais ça dépend beaucoup de moi, quoi.
Tu mets la pression,
il y a beaucoup d'attentes.
Tu t'exploses en fait.
Oui, tu t'exploses quand même.
Parce qu'à Tours, ils t'attendent comme le Messi, quoi. Ouais. Je présume qu'ils mettent les petits plats dans les grands.
Tu avais des propositions de plus gros clubs?
Ouais, j'aurais pu rester à l'étranger, mais ça devenait... je pense qu'il me fallait aussi un projet aujourd'hui à 35 ans, un projet qui me tient à cœur. Le fait que j'ai commencé à Tours, que ce soit le premier club qui m'ait lancé, c'est quelque chose vraiment auquel je tiens aujourd'hui. S'il y a un projet qui me parle pas, même s'il y a beaucoup d'argent, ça va... Fenerbahçe, je me sentais pas bien. C'est pas un projet qui m'intéressait.
Donc Tours, ils ont 2,5 millions de budget, ce qui veut dire que les autres sont pas payés, quoi.
Les autres sont avec Erwin Gapet. Alors, on va parler de l'équipe de France, puisque le but ultime, c'est Los Angeles 2028.
C'est exactement ce que j'allais dire. Vas-y. Non, mais tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'allais dire l'objectif ultime, avec les mêmes mots, c'est donc Los Angeles 2028. Et après? Et après, il se passe quoi ? Est-ce que tu as déjà envisagé l'après ou c'est quand même dans 3 ans, donc tu te dis, bon, allez, step by step, et on va faire le taf d'abord, on va se qualifier et ensuite
Non, la seule certitude que j'ai, c'est qu'après Los Angeles, l'équipe de France, j'arrêterai.
Ok.
Ça, c'est sûr.
Mais en club ?
Et en club, je pense que ça, ce sera plus au jour le jour, si physiquement ça va, si même dans la tête. Hein,
mais t'es une bête, ça va aller. Ouais,
aujourd'hui, finalement, je trouve que c'est plus du c'est dans la tête, quoi. Faut avoir envie d'y aller tous les matins et tout.
N'en parle pas, c'est pour ça que j'ai arrêté, moi.
C'est à cet âge-là qu'on s'arrête.
Ouais, parce qu'au bout d'un moment,
il y a de la lassitude.
Alors, t'as près de 350 matchs en équipe de France. Le palmarès, on l'a rappelé tout à l'heure. Cette saison, tu as fait une pause avec l'équipe de France. Et il y a ces JO en point de mire. Et donc, j'ai lu dans tes interviews récentes qu'il va falloir que tu regagnes ta place. Ça nous semble. Nous, pas évident que pour un mec qui a ton statut, il faille que tu gagnes ta place. Explique-nous ça. Est-ce que c'est simplement du politiquement correct ou t'es réellement en danger ?
Non, c'est réel. Je pense que tous les mecs là, qui sont là depuis un certain bout de temps et qui ont décidé de prendre une pause cet été parce que c'est dur, mais surtout mentalement, je pense. Il y a des mecs qui vont arriver là. Il y a des jeunes qui sont même plus si jeune que ça, parce qu'aujourd'hui, pour moi, quand t'as 22 ans, t'es plus un jeune, quoi. Ouais. Tu joues dans des grands clubs et tout, et qui vont prendre de la place, qui ont signé dans des gros clubs en Europe. Et donc, l'été prochain, quand on revient, les cartes sont un peu rebattues. C'est comme ça, hein, le sport.
Tu dois faire tes preuves avec Tours et gagner ta place réellement.
Moi, je pense que ma présence au jeu à LA dépend des deux saisons que je vais faire.
Ouais, puis c'est important de jouer pas comme si tout était acquis d'avance. En fait, ça permet de se challenger, de se pousser, d'aller à l'entraînement. Sinon, il y a pas de motivation. Si on se dit, bon, j'ai ma place, ça pousse, en fait.
Alors, la seule concurrence, Denis, en fait, c'est toi la seule concurrence, en fait. C'est ce que tu
veux. C'est parce que t'as l'air de dire.
Non.
Les jeunes qui arrivent, il a dit. Enfin,
lui, il veut pas dire le contraire, mais je pense que lui.
Si c'est à son niveau,
c'est fort ce que tu dis quand même.
Oui, c'est fort, mais je le pense. C'est puissant. Je le pense vraiment.
Pour finir, un petit point perf physique, parce que je sais que ça te parle, Vincent. Donc, ça, c'est sur le site de la Fédé de volley. Donc, je sais pas si les chiffres doivent être exacts.
Sur le poids, je pense qu'ils vont se planter.
Je pense pas.
Non, sur le poids, non.
Je pense que mettre sans plus une troisième ligne.
On dirait rien sur le point parce que
quand même mec qui joue au volet.
A priori, t'as eu du mal pour la photo enfiler le maillot de tour, mais bon.
Quand je l'ai vu rentrer, j'ai dit c'est Aldrit, le mec de La Rochelle.
Non, regarde, hauteur d'attaque 3m58, hauteur de bloc 3m27. Ça veut dire que c'est la hauteur de ta main en attaque et en défense.
Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas. Mais les derniers tests que j'ai fait, j'avais 17 ans. Et c'est toujours les mêmes. Parce que on n'a pas refait de test.
C'est comme au rugby, le poids à la taille, c'était quand t'as 18 ans.
les chiffres font tourner la tête quand même. Parce que je suppose que la plupart des volleyeurs ont des perfs de ce type-là.
Ça fait monter 3m50.
C'est difficile à imaginer.
C'est pratique quand t'as une ampoule à changer. Tu dis, la poule en haut, s'il te plaît.
Arvin Gapet dans le Super Moscato Show, merci beaucoup.
Merci.
Bonne saison avec Tours.
Merci.
Et rendez-vous de roche à Los Angeles.
Ça va le faire.
Tu vas finir à Los Angeles, champion du monde. Voilà, champion olympique.
Ce sera mieux.
Et voilà, Arvin. Il est costaud, Arvin Gapet.
Oui, Arvin, il avait quelques kilos en trop, mais souvent, il est revenu nous voir.
Souvent, mais il fait le yo-yo, mais après, quand il y a une compétition, il sait s'affûter.
Ah, bah là, il doit être en pleine préparation, là. Pour la reprise.
Ah, bah là, ils doivent transpirer. Ils doivent faire chaud, là. Ils doivent faire des 30-30, tu sais. Pierrot, le rallye, on aime bien débattre de rallye de temps en temps dans le Moscato Show.
On compare des légendes.
Et à chaque fois, on s'écharpe. Voilà. L'Hub reste-t-il au-dessus d'Ogier ?
Ah oui, c'était après le 9e titre de Sébastien Ogier.
RMC, le cri du cœur du Super Moscato Show.
Je vous rappelle que samedi, Sébastien Ogier a l'occasion de devenir champion du monde pour la 9e fois, comme Sébastien Loeb. Match entre deux immenses champions. Loeb reste-t-il au-dessus d'Ogier selon vous? On va essayer de les départager. Alors bien sûr, pour l'instant, il y a un titre de plus pour Loeb, hein, puisque c'est pas gagné pour Ogier, mais Nicolas Paolorsi a fait le détail de ces deux palmarès immenses. Salut Nico.
Salut Moscato Show.
Salut à tous. Qu'est-ce qui les différencie?
Alors déjà, tu parlais des potentiels 9 titres pour d'Ogier, pardon, on se projette sur ça. L'UP, c'est 9 titres, mais c'est 9 titres consécutifs entre 2004 et 2012, qu'a pas fait Sébastien Ogier. Sébastien L'UP, c'est 80 victoires en WRC, c'est le total le plus élevé de l'histoire, et c'est un ratio de victoires de 50%, c'est-à-dire que un départ sur deux, Vincent, L'UP, on savait qu'il allait gagner la course, et c'est environ 120 podiums en carrière pour Sébastien L'UP. Sébastien Ogier, c'est différent. Déjà, il a 8 titres. Il a 8 titres qu'il a gagné avec 3 équipes différentes. Ce qui n'est pas le cas de L'UP, hein, qui a fait toute sa carrière chez Citroën. C'est 66 victoires, Ogier. Et c'est en longévité plus fort que L'UP, parce qu'en plus, Sébastien Ogier, depuis 2021, il a réduit son programme. C'est un pilote à temps partiel, Vincent. Ça veut dire qu'il ne participe pas à toutes les manches du championnat du monde. Cette saison, il n'en a fait que 10 sur 13. Pouvoir concilier vie de famille et sport de haut niveau. Et sur les 10 courses, 9 podiums, 6 victoires. Donc, voilà, il arrive à jouer le titre de champion du monde encore, Sébastien Ogier, en allégeant ses programmes. Mais quand on compare les statistiques, franchement, les deux sont extrêmement proches, niveau palmarès, que ce soit même sur les petits détails, sur les surfaces sur lesquelles ils ont gagné, ils sont vraiment très proches l'un de l'autre.
Alors, L'UP est-il toujours au-dessus d'Ogier pour Vincent Moscato?
Mais c'est différent. L'UP, c'était le premier médiatique, le premier. D'abord, c'est 9 titres consécutifs, ça se trouve que c'est un espoir. Tu peux le mettre en parallèle avec Ogier qui lui a été dans trois marques différentes.
Ça, c'est
aussi un exploit. Mais je mettrai L'UP parce que L'UP, c'est le premier qui a été médiatique, qui a lancé, qui a été un support pour son sport. Être un support pour son sport, c'est très important. Rappelle-toi, tu te souviens de L'UP, tu te souviens aussi d'Auriol. Ogier, il est plus discret. Mais c'est important pour un sport, il faut le porter, ce genre de truc. Oui, bien sûr. Et puis L'UP, le problème de L'UP. L'UP, il a fait toute sa carrière, 9 trucs, plus de 10 ans, Elena. en étant sourd, parce qu'il avait un problème au L'UP. Et donc, avec Elena, avec un petit grassouille à côté, ils se sont fâchés. C'est dommage parce que l'équipe était bonne.
Bonjour de boule.
Elena. Ouais, non, mais c'est très, très bien. Les deux super pilotes, bien entendu. Mais la primeur, parce que L'UP, tout le monde en parlait. Il était parti. C'est important pour ces sports qui sont pas très connus du grand public. C'est important d'être un support, de le faire connaître. Et L'UP était l'homme providentiel. Même Auriol en 94, quand il est champion du monde. Crois-moi, il en parlait. Attention, je sais pas si Auriol, il n'était pas plus médiatique. C'est Hubert Auriol.
Hubert Auriol.
C'est le Dakar.
Auriol. Tu vois, Auriol, voilà. Il y a eu Vincent Auriol aussi.
Oui, mais alors, c'est pas le même sport.
L'Élysée.
C'est vrai, c'est un politicien. Un homme politique.
Non. Stephen. C'est président de la République.
C'est Vincent Auriol?
Ben oui, Vincent.
T'es président de la République?
Ouais, bien sûr.
Quelle République?
Bien avant Mitterrand.
Alors, on est. Eric, qui est devant l'autre?
C'est une bonne question parce que même s'il y a un titre de retard qui peut être comblé ce week-end, il y a vraiment des arguments pour les deux. D'accord avec Vincent sur le fait que L'UP c'est le premier, 9 titres d'affilée, icône médiatique puisqu'on l'a vu faire des pubs à la télé.
Sans mettre le nom dessous, tu vois.
Disons qu'il est sorti du cadre du rallye, quoi, parce que tu notes la notoriété sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à sortir de son sport. En rallye, malheureusement, il y a Darnish qui l'a fait. Rappelle-toi quand il s'est fait greffer les cheveux là et qu'il faisait des pubs pour. T'as rappelé qu'il était chauve, il a une mèche. On le voit pour la sécurité routière régulièrement. Ça a été un très grand pilote. Il était médiatique aussi à l'époque. Sauf que moi, ce qui me plaît chez Ogier, c'est la longévité. Nicolas dit, et surtout, il a gagné avec plusieurs voitures différentes. Et ça, c'est quand même significatif. Tu vois, c'est comme si tu me dis Verstappen, il est 9 fois de suite avec Red Bull qui est la meilleure voiture du plateau. C'est super. Mais regarde Hamilton, quand il se met en danger, qui va chez Ferrari, d'un coup, c'est plus pareil. Lui, il a fait ça. Il a pris ce risque-là. Et ça, c'est quand même à mettre à son crédit. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'arrive pas à les départager. Lundi, si tu me refais le débat qu'il est 9 fois champion du monde, Ogier, je pense que j'aurai une préférence pour Ogier à ce moment-là.
Ah ouais, non, mais toi, tu me dis que le niveau, il était faible. Hier, en fin de débat, tu me dis, il n'y a pas de niveau. Cette année, ils sont nuls. Donc, tu me dis, d'ailleurs,
si heureusement, tu sais, on a de la chance à la radio. C'est que les bandes, on les garde. Hein. Et Suzanne les ressortira quand on recevra, quand on recevra Ogier.
Stéphane.
La gueule, quand même.
Moi, c'est un débat que tu
imagines s'il fait 90 et
120 kilos. Bon, je risque rien. Comme pilote, en général, ça arrive pas.
C'est un débat qui est embêtant pour moi parce que, après Sébastien Loeb, j'ai arrêté de suivre ce sport, en fait. Pour moi, ce sport a disparu après après Sébastien Loeb parce que comme Vincent l'a dit, Loeb c'était un peu le précurseur, il y avait Auriol, moi j'ai pas connu
Loeb c'était
ma génération,
comme moi le basket quand t'as arrêté,
ouais, je sais, mais Loeb c'était aussi Citroën, constructeur français,
oui, t'as raison.
Ça nous parle aussi quand t'es 9 fois champion du monde avec un constructeur français, ça parle un petit peu plus quand t'es avec Toyota ou Volkswagen. Et puis Eric en a parlé, ou Vincent, je sais pas si vous l'avez fait hier. Moi, cette concurrence avec des noms qui me parlaient, en fait. Quand t'avais Solberg, quand t'avais Sordo, c'était des noms qui, tu vois, t'avais cette compétition. Aujourd'hui, je connais pas les concurrents de Dogier.
Ah bon, Neuville, Tanak. Ouais, mais c'est parce que tu t'intéresses pas que tu connais pas. Parce que tu viens de dire que tu t'intéressais avant.
Ce sport m'a perdu, en fait. Parce que je sais pas pourquoi il m'a perdu, mais parce que l'homme était le premier. Je peux pas comparer les deux. Pour moi, l'homme restera toujours devant Ogier, tout simplement.
Après, les mecs qui le disent, soit les mecs qui le disent,
on a perdu au 32-16. Vous êtes très nombreux à faire du 32-16.
Ils nous regardent plus, Nicolas.
On parle des rallyes sur RMC, donc nous accueillons Alexis. Salut Alexis.
Salut à tous.
Comment il va, Alexis?
Eh ben ça va, impeccable, un peu enrhumé, mais ça va.
C'est pas grave, t'as qu'à mettre une écharpe.
Qui est au-dessus de qui?
C'est Loeb qui est un petit peu au-dessus. Moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'ils ont été qu'une saison coéquipiers et j'aurais bien aimé qu'ils le fassent un petit peu plus souvent.
Ouais.
Maintenant, Ogier, il s'en va, il revient, Moi, je pense que... l'année dernière, Loeb, il est revenu, il a gagné Monte Carlo. Loeb, moi, je pense qu'il s'est arrêté pour faire autre chose et que s'il avait continué, ben, il casserait la gueule à tout le monde. Mmh. Et Loeb, il a battu, je crois que c'est Eric qui vient de le dire, il a battu des Solberg, des Grönholm, des Carlos Sainz, avec des voitures comme des Mitsubishi, des Subaru, des Peugeot. Il y avait un vrai niveau. Là, les voitures, elles sont un peu perdues. Enfin, c'est des petits modèles, quoi. Et je trouve que le rallye des années Loeb est un petit peu plus joli. Et pour moi, Loeb, l'année dernière, il y a juste à regarder le rallye de Monte Carlo. Il est revenu, il a cassé la gueule à tout le monde. Mmh. Après, il est parti, il a fait le Dakar, il a fait Pimpix, il a fait, il a fait plein de trucs. Et moi, je pense que s'il avait continué là, il serait peut-être 10, 12, 13 fois champion du monde, Loeb.
Le problème, c'est qu'on les a pas assez vus l'un contre l'autre. Non, mais ils se sont croisés quand même sur le championnat du monde des rallyes, Alexis.
Trois ans, 2017.
Et Ogier n'était pas du tout ridicule, hein.
Non, j'ai pas dit qu'ils étaient ridicules. J'ai pas dit qu'ils étaient.
Non, mais il y aurait eu une bataille historique, en fait.
J'ai dit qu'ils ont pas été suffisamment. En fait, ils ont été en 2013, je crois, tous les deux chez Citroën.
Attends, est-ce que tu as les chiffres de la confrontation, Nico Paul Orfi?
Je les ai pas. Attends, je te cherche à l'apéro. Je vais te dire ça.
C'est cool parce qu'on aurait pris des journalistes compétents.
Quand ils sont ensemble, chez Citroën, Loeb est champion du monde et Ogier est troisième, mais parce que Citroën privilégie Loeb, en fait, en disant que c'est champion du monde en titre.
C'est vrai qu'on aurait aimé les voir plus à la bataille l'un contre l'autre.
Mais ça, ça aurait été quelque chose de magnifique. Et en plus, ça aurait été possible. En plus, malheureusement,
ils ont que 10 ans d'écart,
ça s'est pas assez vu. Mais concernant la notoriété du WRC, la manière dont c'est filmé aujourd'hui et la formule d'aujourd'hui qui fait que le dimanche est très spectaculaire, ou en tout cas il y a des points en plus. Regardez ce week-end, si vous avez l'occasion, regardez, ça n'a jamais été filmé comme ça, le WRC, même à la grande époque. Moi je suis de la génération de Sandro Munari et toute la Lancia Stratos et tout, t'en souviens toi Vincent, de l'époque, peut-être pas, tu es jeune. Les Lancia Stratos, tu te rappelles pas?
Mais bien sûr,
c'était
c'était la Sandro Munari, donc qui était le pilote de l'époque Lancia, qui roulait sur tout le monde avant qu'il ait quatre roues motrices qui arrivent, et il y avait des pilotes merveilleux à l'époque. C'est très populaire le rallye à l'époque. Là aujourd'hui, c'est moins populaire, mais regardez à la télé ce que ça donne. Vous allez voir.
Écoutez Monsieur Zitron, on n'a pas le temps de refaire tout le rallye.
Allez, dans un instant, on revient avec le journal moyen sur RMC.
On va se moquer de l'idole des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui, Jules. On a le droit de se moquer de Jules.
C'est une idole, lui. Hein.
Lui, c'est une idole, lui.
Allez, à tout de suite avec la vraie voix de Jules.
RMC, jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Il est 15h45 sur RMC, c'est donc l'heure du journal moyen, première édition.
Du journal moyen, première édition, l'actu, la culture, les médias, la musique, on va parler de tout. On parle même hygiène dans les salles de muscu avec une étude assez effrayante. Une grande star du sport va faire Dals, Danse avec les stars, et puis l'artiste le plus écouté en France en 2025, et pas loin d'Éric Dimeco. Vous écoutez RMC. RMC. C'est le 2449e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Avant Danse avec les stars, avant la musique, prenons la direction de la salle de sport quand même que vous fréquentez toutes et tous régulièrement. Ouais. Vous êtes des sportifs. Petit point hygiène important, moi qui m'a effrayé, enquête menée par FitRated, menée sur un panel de 27 appareils de sport dans les salles de gym. Le 27 appareils, t'as à peu près tout, tu vois Vincent. Les vélos d'appartement sont 40 fois plus sales, il y a 40 fois plus de bactéries sur un vélo d'appartement que sur un plateau de cantine. Imaginez quand même.
Oui, quand même.
C'est quand même énorme. Les haltères libres, c'est le record. Les haltères libres.
C'est horrible, les haltères.
362 fois plus de bactéries que sur une cuvette de toilette. Ah, oui. Dans la vie quotidienne.
Ça n'est pas qui.
Ça n'est pas qui, tu vois, des fois, ils se trompent le trou.
362 fois plus. Moi, je fréquente pas les salles de muscu. Toi, ça te surprend pas, Vincent. C'est normal.
Mais c'est des conneries. Ça
maintenant, il y a des désinfectants.
C'est comme si tu dis
les vestiaires de rugby.
Si tu vois, mais c'est des conneries. Tout ça, c'est du.
Mais non, pas des conneries.
Mais non, mais que ce soit dégueulasse, c'est un endroit de sport où les mecs suent, transpirent.
Et oui, mais tu prends des lingettes, tu désinfectes la terre avant la France et tout.
Par contre, au niveau des cuvettes, tu vas à la cuvette de Nounours, tu verras, c'est pas...
Nounours à Saint-Germain,
c'est pas la même chose.
C'est au niveau de la pizza.
Il y a plus de bactéries sur le micro-ondes de Nounours que sur la cuvette de toilette.
Non, mais oui, si tu veux. Oui. Mais il y a plein d'endroits comme ça sur le siège d'un avion. Les trucs qui font les navettes et tout ça, je suis sûr que s'il faut un truc, ils vont vite s'en apercevoir.
Le pire,
téléphone. Donc ça, c'est des enquêtes. Bon marché.
Refusé.
Alors, si c'est pour dire que les toilettes, les vestiaires de foot, de rugby, de basket sont plus dégueulasses que la cuisine de la reine d'Angleterre, ben oui, sûrement, probablement.
Sans transition, ça faisait longtemps, Vincent. Voilà. J'ai un ordre à te donner. Danse, Vincent. Tu as brillé en 2018 déjà. 2018, danse avec les stars sur TF1. Une ancienne grande championne va participer à cette émission populaire. C'est une des plus grandes championnes de l'histoire du sport français. Après son frère, l'année dernière, Laure Manaudou va participer à Danse avec les stars. TF1 a rendu officielle l'information encore une sportive, après Adil Rami, après Candeloro, après Vincent Moscato, après Nathalie Péchala. Alors Vincent, moi je me suis dit, s'ils veulent faire un coup, faut inviter Philippe Lucas pour la conseiller, il va faire le show là, pour faire le coach.
Je
pense qu'il viendra danser un coup.
Elle va être douée ou pas, Laure?
Laure,
elle est sportive.
Oui, elle va être raide, comme tous les sportifs. Elle va être raide. Alors c'est une nana, ils sont moins raides que les mecs, mais souvent quand c'est des sportifs de haut niveau, ils sont quand même assez raides. Quoi.
Il faut inviter Philippe Lucas là, c'est sûr.
En tout cas, Laure Manaudou, c'est une star.
C'est une énorme star. Florent Manaudou était une star aussi l'année dernière.
Oui, l'an dernier.
Mais Laure Manaudou, sans se fâcher,
on était très peu.
Laure est une plus grande star que Florent par son parcours.
Oui,
dans les stars, on était très très peu. Hein.
Alors, le record. Alors, parlons argent et cachet. Parlons cachet, parce qu'on aime bien ça. Les médias spécialisés, il y a un an, avaient sorti les salaires, les cachets, la base des stars. Florent Manaudou était numéro 1 de la saison dernière, quand même, le sportif. 400 000 euros. Juste en dessous, il y avait Adil Rami, 350. Francky Leboeuf, 250 000. Mais non, Francky, quand même, il est là.
Il débrouille, Francky.
Il dit que t'as pris 100 000, toi.
Et Nelson Montfort, 100 000, Nelson.
Nelson, 100 000. Ouais.
Toi, tu te fais arnaquer.
Mais j'avais pris combien, toi?
Bah non, mais il peut pas le dire parce qu'il a quelques.
Mario, ça va.
Est-ce que Laure va prendre plus que.
On a fait les gosses pendant quelques mois.
Est-ce que Laure va prendre plus que Florent?
Oui, bravo.
Il
n'y a pas de souci.
Ça va faire des jalousies dans la famille.
Ah, peut-être pas, parce que là, au bout d'un moment, il bloque. Il y a moins d'oseille dans la prod. Au bout d'un moment, ça bloque en haut, quand même.
Quoi?
Bon, après, si vous la cherchez.
Non, mais Laure Manaudou, elle ne fait pas grand-chose. Elle veut pas faire grand chose.
Oui.
Donc si tu veux, c'est.
Non, c'est rare de l'avoir. Je pense que
500,
ils arriveront
à l'avoir. Non, mais au fait, Manoudou, c'est pas.
Oui, il a raison, ça coûte cher.
Ben,
ça coûte plus cher.
Ah oui, non,
mais ça coûte plus cher. La rareté
elle a besoin d'oseille, des autres sont moins bonnes et tout, attention.
Elle a des enfants.
Les enfants. Eh bien, c'est bien. Quel est
Marion, il y a une tradition. Quand on prononce le nom de Philippe Lucas, alors c'est deux jours d'affilée, mais c'est comme ça. On repasse une archive avec Pierre Dorian. Je sais pas si tu connais cette archive, Marion. C'est gratuit. Il y a 20 ans, Pierre Dorian, jeune journaliste, est sur une compétition de natation. Il y a 20 ans, il pose une question à Philippe Lucas parce que Laure Manaudou, dans un championnat du monde, avait raté sa première course. La championne avait raté sa première course. Championne d'Europe. Pierrot, le petit Pierrot, Pierignon, il l'appelait à l'époque, va voir Philippe Lucas, il pose une question. Écoutez.
Est-ce que vous avez l'impression que, entre guillemets, c'est le retour de la championne ou quelque chose comme ça? Et marrant, lui. T'es champion du monde de la connerie, toi. Non, pourquoi vous racontez des choses comme ça?
C'est une question que je pose. Est-ce que
voilà, vous avez le retour de quoi, de la championne?
La Lormano qu'on connaît, quoi.
Pourquoi?
Ça va bien.
Parce que tu passes une fois à travers, après tu es une merde. Non, c'est ça? C'est ton esprit, ça? Bon. Ça me fatigue, tu vois.
Il m'avait mouché,
quand même.
Il avait coulé au fond de la piscine. Il est sous ton sale mec. Murios, il est un peu de
lui. C'est un sale mec.
Après les salles de muscu, après Danse avec les stars.
C'est incroyable.
Messieurs, dames, événement musical ce week-end. Vincent, tu as enflammé les réseaux sociaux ce week-end, on t'a vu chanter. Tu dois des explications à tes collègues, à tes amis du Moscato Show. Coulon, ouais. Donc je te vois sur scène. Moi je suis. Je fais un peu une revue d'Instagram.
C'est pas normal à mon âge, non.
Je vais sur TikTok, je vais sur Instagram, comme toi, tu vois, quand tu sais pas quoi faire, samedi, t'es devant la télé, hop, un peu d'Instagram. Bim, je vois mon 20-20. Petit segment en action sur une scène. Il me semble que c'est en Corse. Tu montes sur scène pendant un concert de, tu vas mieux le dire que moi, Français Vito.
Ouais.
C'est un chanteur corse qui a fait The Voice.
Super, ouais,
ouais. Saison 7 qui cartonne. Tu montes sur scène pour chanter. Problème, là c'est pas de la chanson en corse, c'est une chanson en anglais, très connue.
Quand ça aurait été du rock.
Sweet Dreams, vous connaissez la chanson Sweet Dreams?
Je l'avais au début, mais j'ai pas le milieu alors, ni la fin.
Et alors, ce qui est génial, allez voir la vidéo sur les réseaux sociaux, on va vous la mettre sur le compte du Moscato Show.
Va, ouais.
Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on voit un homme heureux. Vinvin est content d'être sur scène. Toi, tu l'as vu, je suis fan.
Il est zigouillé d'un strike, comme sur des bouteilles de blanc.
Le public est en folie, et tout le monde fait le mouvement de Vincent. On enlève les petits segments. C'est un truc à la mode. Non mais c'est génial. Et Vincent va se lancer dans une chanson en anglais, et c'est Jean-Michel Up a Pray. Donc écoutez bien. Écoutez bien, au début c'est le chanteur, le vrai chanteur français qui chante, Français Zito. Et Vincent arrive au bout de dizaines de secondes, et là c'est Scan One Again One Again. Vincent Moscato, la star du week-end en Corse. Là, c'est le chanteur. Non non, tu vas arriver. Attention.
Ah. Eh ben, suis, moi.
Mais au début,
je l'ai pas
du tout.
Oh,
merde.
Tu connaissais la chanson quand même?
Bah,
Sweet Dreams.
Sweet Dreams.
C'est bien.
Comment ils s'appellent? C'est vrai qu'on connaît l'air.
Elle a traversé le temps. Elle a traversé le temps. Elle a 40 ans, cette chanson.
C'était bien. Yann Muller, il chante de
Yann
Muller. Yann Muller, c'était mieux.
Ouais,
Yann Muller.
Il
chante de
Yann Muller.
Non, mais là, mais bien, franchement, t'aimes chanter sur scène. Je sais que je t'ai vu quand t'es monté.
Au mieux, t'aimes un peu la scène quand tu fais un peu de scène.
Allez voir la vidéo parce que plusieurs fois il demande aux gens devant est-ce qu'il peut sauter.
Oui, oui.
J'avais envie, mais avec des nanas, je pense.
Il y a des gens qui se loupent. Non, on veut pas, on veut pas.
Je veux fracasser.
Alors, bon, classement annuel.
Ça
toujours.
Me fait du bien, ça. Hein.
Classement annuel, toujours très attendu. En 2025, quel est l'artiste qui a été le plus écouté en France sur Deezer? C'est une plateforme de référence. Il est Marseillais. Sixième année consécutive. Non, mais attends, Vincent.
Oui.
Il bat des records. Pour la sixième année consécutive, c'est l'artiste le plus écouté en France sur Deezer. C'est lui. Jul, le Marseillais Jul. Alors, sur le top 10, c'est une première, c'est incroyable. Il y a 9 rappeurs. Les 9 premiers sont des rappeurs. Les gens écoutent du rap. Après, c'est la chute ou c'est nous qui sommes un peu déconnectés. Il y a pas les deux.
Il y a les deux.
Le premier non rappeur, c'est The Weeknd qui est 10ème. The Weeknd, chanteur.
Ah non, c'est très bon ça.
On a vu. C'est en France, évidemment.
Alors, The Weeknd, c'est pas rappeur.
Il y a une vidéo. Non, justement, le seul non rappeur.
Premier non rappeur.
Il y a une vidéo qui fait le buzz sur Jul, Vincent. Il y a un documentaire sur lui. Il est filmé en pleine séance d'enregistrement en studio. Donc il y a une caméra qui le filme en train de chanter. Mais là, il n'y a pas d'autotune. Sa voix n'est pas modifiée puisqu'il parle dans le micro, si tu veux. Écoutez ça, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup parler.
Vous avez des caries et éteignez la musique.
Écoutez,
la
Jul, ça va vous faire mal. Ça fait le buzz sur Twitter, sur Instagram. La véritable voix de Jul, faites silence, fermez les micros. Jul. Voilà.
Je te mets ce qui balle. Attends, mais je te parle deux secondes, espèce de salope.
C'est incroyable.
Je fais le mec qui paraît. Je suis premier ski ball. Attends, mais je te parle de ce bande.
C'est fou.
Je me fais discret, je parle pourquoi.
Non, après, quand c'est modifié, t'as l'effet autotune.
Je me fais discret, je parle pourquoi.
Taisez-vous, monsieur Jules. Julien Foster. Julien Marie, de son vrai nom.
Alors, vu qu'on a 30 secondes, je vais vous proposer un autre artiste, une autre voix, non modifiée, donc a cappella. Enfin, c'est la piste juste de sa voix sur un morceau que vous connaissez très bien. Voilà, alors, si vous voyez une différence, c'est normal.
C'est nous qui sommes un peu vieux, Adrien. Mais non, mais c'est de la merde, Adrien. C'est pas du rap. Moi, du rap, c'est pas ça. C'est... Non, mais bon, tant mieux pour lui, ce gars.
Oui, après,
et tant mieux, et bravo, et sixième, ça, tant mieux. Il n'y a pas de souci.
C'est un courant aussi.
Mais c'est courant.
C'est un grand chanteur.
En fait, c'est plus un courant du chant.
Ben oui, c'est un mouvement.
C'est pas quoi, c'est le torrent, c'est le
Il a quelque chose de Noé, c'est pas le meilleur chanteur de l'histoire.
Non.
Oh mais non, mais
Vincent,
c'est autre chose. Mais ne mets pas ça dans la chanson, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. C'est un cri d'alarme dans la nuit. Voilà, Pierrot, c'est ça.
Voilà, bah oui.
Alors, ça serait pas étonné parce que s'il avait une belle voix, il trafiquerait pas sa voix. Mais c'est curieux parce que je crois que ce sont pas des images volées, c'était dans le cadre d'un documentaire, donc ça veut dire que lui, il assume.
Oui, bah.
Il assume complètement parce que certains artistes.
Ça sent maintenant son niveau de notoriété tel que
ça
changera plus rien.
De toute façon, on savait que c'était pas non plus sa
qualité première.
On n'est pas sur Florent Panique.
Sa qualité première, c'est de parler à la jeunesse et d'être capable de produire, d'écrire, de composer.
Tout le temps.
À une fréquence hallucinante.
Comment ça va la zone? Moi j'étais le voir en concert, Pierrot. Non mais j'adore, moi, Jules. Enfin j'adore. Je suis allé avec ma fille, j'aime bien.
Beaucoup adore. Allez, Arthur Fils, on revient au sport dans un instant. À Grand Chelem, est-ce un rêve inaccessible?
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.